Le monde chez nous.
J'ai commencé à faire mes premières cuisines, bien sûr qui n'ont pas bien marché. Hein. J'ai brûlé pas mal de choses.
Le monde chez nous.
J'ai une amie qui comprend le français, mais qui ne peut pas parler. Et moi, je comprends l'anglais et je ne peux pas parler alors.
Le monde chez nous.
Si vous habitez une maison de verre, ne vous amusez pas à jeter les pierres sur les voisins.
Le monde chez nous, avec Céline Gagnon.
Bonjour et bienvenue chez vous, ravie de vous accueillir à nouveau. Je vous propose aujourd'hui des escales dans toutes les régions de l'Ouest et même au Yukon. On fera encore une fois un tour du monde des cultures de la francophonie internationale en compagnie de ceux et celles qui ont choisi notre coin de pays pour vivre et qui partagent notre amour pour la langue de Molière. Joli tour de nos quartiers donc, histoire de voir qui sont nos nouveaux voisins dans l'Ouest. Parmi nos guides aujourd'hui, Philippe Socazo, un artiste originaire de la région Midi-Pyrénées en France, qui a trouvé à Vancouver l'inspiration qui lui manquait dans l'Hexagone. C'est de Kassioui, un Algérien à Calgary, qui nous fera découvrir quelques trésors de la langue et de la culture tamazight. Et puis la jeune Mélissa Seya nous parlera de son départ du Congo et de sa nouvelle vie en Saskatchewan. Mettons tout d'abord le cap sur le Japon, pour découvrir ce métissage culturel si particulier que vit un Canadien d'adoption installé à Winnipeg. Si la ville de Vancouver est considérée comme la porte de l'Asie à cause de sa forte population asiatique, la ville n'a pas l'exclusivité de cette immigration. À preuve, Yukihiro Shiokawa est japonais de naissance. Il vit à Winnipeg depuis 20 ans avec son épouse québécoise et leurs deux enfants. Il est dans nos studios à Winnipeg pour nous parler de quelques caractéristiques de la culture japonaise. Bonjour, Monsieur Shiokawa.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui vous frappe d'abord quand vous retournez au Japon?
Ça m'étonne. Qu'il y a certaines choses qui sont exactement comme ça a été il y a 30 quelques années. Plutôt les choses de profond, comment ils arrivent, prendre la décision, comment ils se comportent. Ouais.
Ben justement, si toutes les sociétés, on peut le penser, évoluent avec le temps, il demeure que justement certaines cultures accordent plus d'importance aux traditions, et c'est le cas du Japon. Et vous allez donc brosser un tableau des caractéristiques de la culture japonaise pour nous, et on va commencer avec justement le respect des rituels chez les Japonais.
Dans la culture japonaise, moi je trouve toujours il y a certains codes de conduite ou code éthique que vous ne pouvez vraiment pas éviter en faisant n'importe quoi. Il y a beaucoup d'exemples classiques comme la cérémonie de thé ou le combat de judo ou certaines choses. Ouais, ouais.
Alors, il y a des rituels dans les relations interpersonnelles. Comment on aborde les gens, comment on s'adresse aux gens dans la culture japonaise?
Ouais, il faut penser c'est quoi l'âge de personnes interlocuteurs qui sont devant vous, aussi le sexe, aussi le statut dans soit dans la société ou dans l'organisation.
Ce serait donc considéré un faux pas qu'un plus jeune adresse la parole d'abord à un aîné ou à une personne plus âgée.
Ouais, si on vivait au Japon, ça se fait tellement bien. Dans la façon claire que vous n'allez peut-être pas faire beaucoup de faux pas. Puis mes enfants ont eu cette information de moi-même avant d'aller au Japon. Donc, je pense qu'ils observaient puis ils ont dit, oh oui, c'est exactement comme mon père m'avait parlé avant.
Oui, une chance que vous êtes là. Alors, une autre caractéristique de la culture japonaise, c'est son tact. Les Japonais sont sensibles aux circonstances personnelles, historiques, dans leur relation avec autrui.
Oui, puisque ils ont la nature de ne pas être très spontané. Ils cherchent toujours comment je dois me comporter, comment je dois agir à partir de maintenant. Donc, ils cherchent toujours un petit peu d'information avant. Ah, OK, donc on félicite quelqu'un qui vient de réussir l'examen. Ah, OK, d'accord. Il y a un petit peu d'informations d'hier, avant-hier, ou même la semaine passée, ou même l'année dernière. Moi, je décris ça comme contexte historique. Ce n'est pas nécessairement l'histoire d'il y a 100 ans ou 200 ans. Mais sans avoir information comme ça, les Japonais sont peut-être un peu moins capables d'agir spontanément. « Wow, bonjour », etc. Ça, c'est le caractère que je trouve toujours à chaque fois quand je rentre au Japon.
Mais avec tout ce tact et cette rigueur en même temps, c'est un peu des contrastes. On peut s'attendre à ce que la culture japonaise, la société japonaise soit très indulgente, justement, et a beaucoup de tact à l'égard de, par exemple, des touristes canadiens qui débarquent chez vous et qui n'ont aucune idée des règles de conduite.
Non. Je pense qu'ils sont assez insulaires, puis ils sont très bons de séparer le japonais entre japonais et non-japonais, puis les attentes ne sont pas les mêmes pour les étrangers.
Ben c'est rassurant.
Ouais, exact.
En dernier lieu, les Japonais font des efforts considérables pour entretenir des liens harmonieux avec les autres.
Oui, ils ne sont pas le peuple qui cherche toujours la confrontation autant que méthode de régler le conflit. Ils vont le faire quand il faut absolument nécessaire, mais le premier instinct, c'est d'avoir la consensus, conciliation, pas nécessairement le pointer quelqu'un pour la responsabilité, etc., etc.
Dites-moi, dans la vie de tous les jours, ce souci d'avoir un climat harmonieux entre les gens, ça se traduit comment dans la vie de tous les jours, dans le quotidien? Vous venez de Tokyo, c'est une grande ville, Tokyo, il y a une grosse densité de population.
Un exemple, c'est comme escalier roulant. Il y a beaucoup de trafic dans le train, métro, l'autobus, etc. Donc, afin de garder le trafic dans la meilleure façon, il faudrait que les gens se comportent à peu près de la même façon, puis pas nécessairement agressivement chercher ta propre place. Quand tu montes l'escalier, durant les heures de trafic à Tokyo, par exemple, tout le monde tasse à droite. Comme ça, si quelqu'un qui vient extrêmement pressé peut prendre le côté à gauche, escalier, comme ça, ils vont pouvoir continuer. Sans ça, si tout le monde exerçait de chacun la liberté, OK, j'aimerais mieux à gauche parce que je suis gaucher, oh, voyons donc. Là, le pressé va aller gauche, à droite, ça va être catastrophe.
Le chaos total.
Ouais.
Bon, ben, vous avez brossé un portrait de la culture japonaise vraiment très intéressant. Un peuple de tradition, une société où le tact prime et aussi où on essaie d'entretenir des liens harmonieux. Beaucoup de civisme. Je vous remercie beaucoup d'être passé à notre micro, Yukihiro Shiokawa à Winnipeg. Merci.
Merci.
Je m'appelle Fouad Anouf, j'habite à Edmonton, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Le monde chez nous, ça me parle.
Le monde chez nous se fait curieux des patronymes dans le monde et aujourd'hui, notre invité nous enseigne qu'au Sénégal, le choix du prénom que l'on donne à un nouveau-né n'est pas le fruit du hasard.
Bonjour, mon nom est Fatmata Wan, mais mes amis m'appellent Defa. Donc, le Defa, c'est seulement, les D, c'est pour dire ma grande dans ma langue. Et le Fa commence par mon nom, Fatoumata. Je viens du Sénégal et une partie du Mali, parce que je suis née au Mali. Mon père était ambassadeur au Mali, mais je viens d'origine du Sénégal. La plupart des gens, c'est Fatoumata. Le premier fille de la famille, c'est toujours Fatoumata. Les garçons, c'est Mamadou. Le souvenir que j'ai pour mon nom, la plupart des grandes, les premières filles, comme j'ai dit Fatoumata, on les appelle Defa. Pas Fatoumata, c'est par respect de la grandeur de l'aîné. Comme par exemple, si dans la famille, tu es la première fille dans la famille ou dans ta lignée, on t'appelle Defa, ça veut dire tu es la plus grande.
Fait à Thomas Sankara. sais pas qu'ont-ils fait à Thomas Sankara. Qu'ont-ils fait, ça moi je ne le sais pas. Ils ont fait mal à sa mère, ils ont repris tous les terres. Ils ont fait mal à ses frères, oh, 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 oh. Qu'ont-ils fait à Thomas Sankara? Qu'ont-ils fait, ça moi je ne le sais pas. Qu'ont-ils fait à Patrice Lumumba? Qu'ont-ils fait, ça moi je ne le sais pas. Ils ont fait mal à sa mère, ils ont repris tous les terres. Ils ont fait mal à ses frères, oh, oh. De Dakar à Kinshasa, Lumumba manque à l'Afrique. Oh, oh, eh, eh, eh. Analala Nudem, Adjoma Sankara. Lala Nudem, Apatrice Lumumba.
Vous avez peut-être reconnu la voix chaude d'Elhadj Diouf, ce musicien sénégalais qui vit à Montréal depuis quelques années. Sankara, c'est le titre de la chanson qu'on vient d'entendre et c'est un des 12 titres qui composent le deuxième album solo d'Elhadj Diouf, un album intitulé Melokan. Ça, c'est un mot Wolof qui est la langue maternelle d'Elhadj Diouf, un mot qui évoque le parcours d'une vie et son reflet dans le moment présent. Et dans cette chanson, Elhadj Diouf rend hommage à Thomas Sankara, figure emblématique de la lutte contre l'apartheid et du respect des droits de l'homme. Thomas Sankara a été assassiné à la fin des années 1980. Génération d'aujourd'hui, c'est le moment de l'émission où les jeunes prennent la parole. Qu'ils soient néo-canadiens ou qu'ils soient nés ici, de parents immigrants, les jeunes portent un regard qui intéresse le monde chez nous. Mon invitée aujourd'hui est toute jeune. À l'aube de ses 17 ans, Mélissa Seya est l'aînée d'une famille de 5 enfants. Elle a laissé derrière elle ses 4 frères et ses parents en République démocratique du Congo, pays où elle est née, pour venir s'installer chez sa tante à Saskatoon. Elle termine actuellement sa 11e année. Bonjour Mélissa.
Bonjour Céline.
Alors dites-moi d'abord, est-ce que c'est habituel pour une jeune Congolaise de se séparer de sa famille pour faire des études à l'étranger?
Non, non, pas toujours, parce que suivant les formations qu'on a chez nous, du secondaire ou de l'université, c'est pas vraiment de coutume. Alors on y va quand on a l'occasion d'y aller ou que nous avons un membre de famille quelque part d'autre.
Et vous avez de la famille, vous, à Saskatoon?
Oui, la sœur de ma mère, c'est avec elle que je vis.
Parce que vous avez quand même laissé vos parents, vous avez laissé vos frères, vous avez laissé beaucoup de monde derrière vous, vous avez laissé des amis. Est-ce que vous étiez un petit peu craintive?
Non, pas du tout, parce que je savais que je retrouverais ma famille aussi.
Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans votre nouvelle vie à Saskatoon?
Je pense que c'est jusqu'à présent, c'est encore plus difficile pour moi, c'est de parler anglais. Je peux comprendre, mais je me sens gênée de parler anglais.
Est-ce que c'est facile de se faire un nouveau cercle d'amis ici?
Oui, parce que ça parle français.
Et vous avez des amis francophones, anglophones?
J'ai des amis francophones. J'ai des amis comme par exemple quand on va à l'église. J'ai une amie qui comprend le français mais qui ne peut pas parler. Et moi, je comprends l'anglais et je ne peux pas parler. Alors
vous communiquez comment?
Quand je parle, elle comprend ce que je dis et elle me répond en anglais. Et quand elle parle, je comprends ce qu'elle dit et je lui réponds en français.
Alors, c'est une belle aide, ça. C'est une belle collaboration.
Oui.
Vous travaillez en équipe pour vous comprendre.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez appris au Canada depuis votre arrivée qui vous étonne peut-être le plus?
Moi, c'est le fait que le Canada puisse être un pays multiculturel, quelque chose que je ne savais pas. Je pensais que le français n'était qu'au Québec, mais je vois que dans toutes les provinces, il y a pratiquement au moins une communauté francophone.
Oui. La suite des choses pour vous, vous allez terminer vos études du secondaire?
Oui.
Qu'est-ce que vous prévoyez faire ensuite?
Cela dépendra de mon visa. S'il continue à se prolonger, j'aimerais bien finir mes études au Canada, mais si ça continue à se prolonger.
Est-ce que vous aimeriez, vous préféreriez rester pour terminer, faire des études universitaires au Canada ou vous préférez rentrer au Congo?
S'il y a une occasion qui se présente, s'il y a une possibilité que je puisse rester au Canada pour finir mes études universitaires, je le ferai.
Et puis, est-ce que vos frères pensent peut-être un jour venir eux aussi au Canada faire des études?
Ils y pensent, oui.
Oui, ils viendraient eux aussi à Saskatoon?
Oui, ils viendront à Saskatoon parce que c'est là que nous sommes, nous, leur famille.
Ben, merci beaucoup, Mélissa Seya, de nous avoir parlé aujourd'hui. C'est un
merci
plaisir. Bonne continuité. Merci.
Merci.
Et la foule fait ce qu'elle veut. Elle est là pour faire face. Elle vient pas foutre le feu. Elle vient déclarer sa flamme. Fire.
Is anybody listening? The city's on fire. The town is burning down. But there's no water. Da, da, da. 8 million citizens, nobody's really listening, nobody's really watching. 8 million ignorant, 80,000 teachers, way too many preachers, thousands of leaders, but nobody leads us. 3 million beggars, 4 million pleasers. We are the world, but they don't really need us. Ghetto got no funds, ghetto ain't no fun. Ghetto kids got guns, ghetto got no one. Ghetto got no funds, ghetto ain't no fun. Ghetto kids got guns, cause they got no one.
One love pour mes soldats, one love pour mes petites sœurs. Prise en otage avec une bombe à la place du cœur. C'est ça même.
Is anybody listening? The city is on fire. The town is burning down. But there's no water. Is anybody listening? The city is on fire.
Mais je vous aime quand même. On m'a appris à trahir, mais je vous relève quand même. Je ne suis pas venu seul, viens ma soeur que je t'emmène. Je n'ai que ma grande gueule, pas de gun, que des emmerdes. Viens que je t'emmène, viens que je t'enlève. Viens que je te sauve, que je te cause, que je t'engraine. Graine de colère, mon ghetto est sous pression. Jour de tonnerre, peu de réponses, trop de questions. Nous terre par l'oppression, qu'on tombe de sommeil. Comment nous faire de l'ombre, on est les enfants du soleil. Viens, viens, on reste dur, que notre bruit dure quand même. Même entre les murs, qu'on se murmure quand même. Viens, viens, on brûle le mal. Putain, parce que Marie m'est on fire. Ma vie est on fire, ma ville est on fire. Crève, guerre, des merdes, vénère, brailleur. Crabe, besoin d'air, j'émerge, besoin d'ailleurs. Donc, je me répète, Marie m'est on fire. Ma vie est on fire, ma ville est on fire. Qui pourra nous comprendre, besoin d'un traducteur. L'amour en cendre avec une bombe à la place du cœur. C'est ça, man.
Is anybody listening? The city is on fire.
Ma ville est on fire.
The town is burning down. But there's no. Is anybody listening?
Ma vie est on fire.
The city's on fire.
Yeah.
The town is burning down.
L'amour en cendre avec une bombe à la place du cœur.
Nobody's listening to the sounds of the street. The clamor, the violence, the sirens, the heat. 5 million scared, 3 out of 5 million desperate. 1 million hurt, thousands arrested.
Yeah. Allume ton esprit, sors de leurs griffes. Relève ton estime, sors de leurs chiffres. J'enchaîne les coups de gueule.
Mais on ne libère pas un peuple se libère tout seul. Fire.
The city's on fire. The town is burning down.
C'est ça même.
There ain't no sounds of silence. Tell me who's gonna help us now.
Je vous aime, yeah.
Nobody's listening.
Personne.
8 million people running, looking for shelter.
Yeah.
But they got nowhere to go. Is anybody listening?
Allez leur dire que ma ville est on fire. Yeah.
The town is burning down.
Et j'ai une bombe à la place du cœur.
Is anybody listening?
Rien à faire, ma vie est on fire.
The town is burning down.
Et j'ai une bombe à la place du cœur. Yeah.
Is anybody listening?
Allez leur crier que ma ville est on fire. Yeah.
The town is burning down.
Et j'ai une bombe à la place du cœur.
Is anybody listening?
Rien à faire, ma vie est on fire. J'ai une bombe à la place du cœur.
Elle s'appelle Ayo, elle est d'origine nigériane et tzigane, elle est née près de Cologne en Allemagne et elle chante en anglais. Son nom signifie « joie » en langue yoruba. C'est un beau melting pot et dans la pièce qu'on vient d'entendre, qui a pour titre « Fire », c'est la voix du rappeur congolais Youssoupha qu'on entend.
Bonjour, je m'appelle Charles Nicolai, je viens de la Corse et comme vous, j'écoute Le Monde de chez nous sur ici Radio-Canada Première.
Quand on parle de culture française, ce serait une grave erreur de croire qu'elle est homogène. Au contraire, chaque région a ses particularités, ses traditions, ses habitudes et son rythme. Chaque semaine, un invité nous fait découvrir les caractéristiques d'une culture. Et cette semaine, on met le cap sur le sud de la France et plus précisément sur la région Midi-Pyrénées. Mon invité se nomme Philippe Socazo. Il est Toulousain de naissance et il vit à Vancouver depuis une dizaine d'années déjà. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Et bienvenue. On va débuter notre visite par une caractéristique très attachante de la culture méridionale. C'est un trait culturel qui favorise certainement le tourisme.
On pourrait démarrer tout simplement par l'accueil. Toulouse, c'est une ville carrefour qui a toujours été croisée par des Visigoths en passant par maintenant le tourisme et par sa position géographique. Et ça a donné des gens... curieux, avide de nouvelles cultures et ouvert. Parce que après les Visigoths, il y a eu les Romains, après les Romains, il y a eu les Maures. Et chaque fois, ça a été des différences culturelles importantes dont le Toulousain et puis le Méridional a su se débrouiller et prospérer aussi à travers ça. Parce que dans l'échange, il y a aussi évidemment le commerce, le troc et toutes ces choses qui enrichissent et l'esprit et le porte-monnaie.
Parce que, effectivement, d'avoir traversé dans son histoire l'influence de plusieurs autres cultures, on pourrait croire peut-être qu'au contraire, les gens de la région auraient été plus protecteurs, oui, d'essayer de sauvegarder leur identité.
Ça vient, je pense, des géographiques, parce que Toulouse, c'est pas une ville qui est coincée au pied d'une montagne ou recluse dans un coin géographique. C'est vraiment au milieu, avec en plus un formidable vecteur économique qui s'appelle la Garonne, qui était un endroit où il y avait du saumon, des esturgeons, et puis on acheminait la marchandise par la Garonne. C'était tout un secteur économique, et ils ont rajouté par la suite le canal du Midi qui allait de Toulouse jusqu'à Narbonne. Et ça a créé aussi un autre vecteur économique. Donc, ça dénote l'ouverture et la fluidité de ses habitants.
Alors, l'accueil, première caractéristique, oui, du peuple, de la culture toulousaine, il y a aussi l'art de vivre. Et ça, c'est, oui, important.
Oui, l'art de vivre, c'est l'art de prendre le temps, de regarder, de s'amuser aussi, parce que je dis le méridional, mais c'est le Toulousain ou la personne de Midi-Pyrénées ou du Sud-Ouest. Et on a tous cette caractéristique d'être taquin, joueur, observateur, un peu parfois critiqueur. Enfin, il y a plein de choses. Et tout ça c'est dans un ensemble de dynamiques d'existence.
Vous parlez d'art de vivre, on pense au rythme, au, oui, rythme du jour. Et,
oui,
et il y a un aspect de ce rythme-là,
oui,
qui laisse beaucoup de place à la détente,
oui,
à la farniente, comme, oui, on l'appelle.
Hein. Oui, c'est ça. La sieste était une chose importante. Boire le café, qui dure des heures. Et puis après le café, ben, il y a l'apéritif, qui démarre tôt, qui finit tard. Et tout ça participe à un rythme de temps qui est fort agréable.
Une autre caractéristique, c'est la couleur, la lumière.
Mmh. Ouais, cette lumière qui a su séduire tous les peintres impressionnistes, y compris Matisse, après, qui est venu à Toulouse, à Beauzelle, plus exactement. Je ne sais pas si c'est l'orientation géographique une fois de plus, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des terres rouges, comme Toulouse, on l'appelle la ville rose, parce qu'elle est faite dans de l'argile rouge, et les toits aussi sont en argile rouge, et ça donne cette teinte un peu rose. Mais si on va dans le Gers, c'est pareil, il y a beaucoup de vallons, c'est très doux, et avec des champs de colza, perte de vue ou de tournesol, et ça apporte des lumières jaunes mélangées avec du vert fluo très fort. Et puis si on va dans les Pyrénées, dans certaines vallées qui sont magnifiques, percluses de fleurs et d'odeurs, c'est encore une autre couleur de la montagne. Et je pense que tout ça, ça a une incidence sur, comme je dirais, la pupille. Ça excite, ça tonifie, et quand on fait de l'art, on a envie de restituer cette sensation.
Cette lumière, cette couleur qui est dominante dans la région, diriez-vous que ça a une incidence sur le sentiment de bien-être de la société? Est-ce que la société toulousaine est une société heureuse, règle générale?
En règle générale, j'ai l'impression, parce qu'ils s'y plaisent, ils ne voyagent pas beaucoup. Et même les Parisiens souhaitent qu'une chose, c'est descendre dans le sud, parce qu'il y a quelque chose d'un peu exotique, mais il y a aussi cette joie de vivre, cet accueil, ces couleurs, c'est complètement différent. On n'est plus dans le côté gris, on est dans le côté folklorique, coloré. Les gens sont toniques.
Ça vous manque, cette couleur-là, ici, où les hivers sont pluvieux, plutôt gris?
Pas du tout.
Ah non?
Je pourrais plus dire oui, non, pas du tout. Parce qu'il y a une beauté dans les dégradés de gris, ici, quand il y a le brouillard, notamment sur la côte. Et l'été, c'est un festival, parce que justement, il y a ces contrastes. Et j'aime beaucoup le contraste de l'hiver, qui débouche sur ces belles saisons qu'on a en été. Je m'amuse souvent parce que les Français partent en vacances l'été. Vous ratez le meilleur moment de Vancouver. Moi, je ne veux pas partir en vacances l'été, parce que c'est l'endroit, c'est le moment le plus extraordinaire. On peut se baigner partout, les lacs, les océans. Non, on a beaucoup de chance.
Ben, merci d'avoir pris le temps de venir partager avec nous quelques-unes des belles facettes de la culture toulousaine.
Ouais, je vous remercie aussi de m'avoir apporté la chance de me rappeler de ce beau pays qu'est le Midi-Pyrénées.
Merci.
Je t'aime et je crains de t'aimer encore longtemps. Chiche, que tu ne me laisseras pas tomber. Qu'on fera du hors-piste, nus comme des vers sur les sentiers de l'apocalypse. Qu'on va mourir sans s'oublier, sans s'oublier. Tu danses le twist jusqu'au fond de ma chair. Je vois l'analyste. Je me rapproche de la terre. Mourir, c'est trop triste. C'est oublier tout entière. Je ne peux pas, moi, me passer de toi. Me passer de toi. Tu ne peux pas, non, me priver de toi. Privé de toi. Je voudrais te
Benjamin Biolay chante Miss Miss, ce titre qui paraît sur son plus récent album Palermo Hollywood, un album paru au mois d'avril cette année. C'est un album que Benjamin Biolay a enregistré au moment d'un long séjour de ressourcement en Argentine. C'est un peu une rédemption pour l'artiste français dans la foulée d'une période peut-être plus sombre de sa vie, suite à sa rupture avec la chanteuse française Vanessa Paradis. En tout cas, c'est pour notre plus grand bonheur, ce nouvel album de Benjamin Biolay. Alors tout à l'heure, Philippe Socazo faisait allusion à l'art de la farniente de la culture méridionale. Il faut savoir que plus au sud, en Espagne plus précisément, on remet en question l'heure de la sieste. Et oui, une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe, c'est que la sieste est une véritable institution. Ou l'est-elle vraiment? En tout cas, pas tous les secteurs de l'économie la respectent et ce ne sont pas tous les travailleurs en Espagne qui en bénéficient, mais c'est une tradition centenaire et elle a été instaurée dans les pays qui bordent la Méditerranée pour offrir une pause aux ouvriers pendant la période la plus chaude de la journée. Alors, elle a peut-être moins sa place aujourd'hui, cette fameuse sieste, puisque nombre de commerces et d'entreprises ont la climatisation. En tout cas, c'est pas la première fois que la sieste est menacée en Espagne, mais pour l'heure, les tenants n'ont pas dit leur dernier mot et les paupières de nombre de travailleurs vont rester closes en après-midi. Et vous, que pensez-vous de la sieste? Ben, consultez notre page web et écrivez-nous pour nous donner votre avis à ici.radio-canada.ca/le-monde-chez-nous en un seul mot. Voici le moment gourmand de l'émission et c'est dans une cuisine du Yukon que ça se passe cette semaine. Jean-Augustin Sommet, un prêtre catholique originaire du Burkina Faso, ne laisse plus sa place au fourneau. Mais vous l'entendrez, ça n'a pas toujours été le cas.
Ma recette d'aujourd'hui, je prépare le riz sauce. Donc, le riz avec la sauce. Je prépare d'abord le riz à part. J'essaie de préparer aussi des légumes à la vapeur. Donc ça, je cuis ça à part. C'est typique de chez moi, ça. Deuxième étape, c'est la sauce. La sauce, là, il faut le poulet, il faut de l'huile, des tomates, de l'oignon. Alors, tu laisses mijoter pendant un temps. Après, tu ajoutes du bouillon au poulet. Et ensuite, tu laisses bouillir. À un moment donné, tu ajoutes la pâte d'arachide. Et ça, c'est pour que ce soit un peu pâteux, que ce soit pas très liquide. Le gombo devrait être mis, quand j'ajoutais le bouillon de poulet, ça se bout en même temps. C'est peut-être parce que les gens ont l'argent ici qu'ils peuvent commander tout à travers le monde et puis pour Chosenay, parce que ce gombo-là, c'est un produit des pays tropicaux. On le retrouve ici au nord. Ben, waouh, c'est formidable. Avant, c'était un peu un repas de fête exceptionnel. Aujourd'hui, c'est un repas consommé par presque toutes les familles et tous les jours. Chez nous, on le mangera à la main. Donc, chez nous, généralement, il n'y a pas de table pour manger. Hein. On s'assoit à terre, le plat est au milieu, on fait un cercle là, et on prend à chacun à tour de rôle. Le plus petit prend, celui qui est plus petit, bon, et l'aîné prend le dernier. La cuisine, là, je tombe des nues avec ça, parce que chez moi, les travaux sont bien définis. Les femmes, la cuisine, les hommes, la culture. On travaille les champs, les travaux des champs, ce sont les hommes. Moi, je n'ai jamais fait la cuisine. Je suis le bébé, le Benjamin d'une famille de 6 enfants. J'ai 4 grandes sœurs et un grand frère. Et je n'ai jamais fait la cuisine. Que ce soit à la maison, que ce soit dans mes études que j'ai fait, les séminaires que j'ai fréquentés, on avait des cuisiniers, on mangeait matin, midi, soir, on était vraiment choyés, quoi. Alors là, ici, il fallait que je me débrouille seul. Il n'y avait plus les grandes sœurs, il n'y avait plus la famille pour faire la cuisine. J'ai compris que je n'avais pas le choix. Alors donc, il faut se lancer dedans. J'ai commencé à faire mes premières cuisines, bien sûr, qui n'ont pas bien marché. Hein. J'ai brûlé pas mal de choses. Bon, et puis... J'ai commencé tout doucement à apprendre, avec parfois des échecs, parfois ça n'allait pas du tout, mais quelques 3 mois plus tard, ben, j'ai commencé à bien faire les choses. Au moins pour moi, j'arrivais à cuisiner, à manger, et puis bon. Et je vais retourner avec une autre idée. Une autre idée en ce sens que il faut d'abord compter sur soi, il faut d'abord se débrouiller, et puis maintenant, attendre l'aide qui éventuellement peut venir ou peut ne pas venir. Mais si on m'invite, alors je préfère aller le que de me mettre à cuisiner. Et jusqu'à présent, c'est la même chose. Quand j'ai l'occasion de ne pas faire la cuisine, alors je suis content.
Ah, Père Sommé a bien raison. La nécessité est la mère de l'invention. Et depuis son arrivée au Yukon, ben, ce prêtre burkinabé pimente son quotidien de délicieux repas. Peut-être malgré lui, finalement. En tout cas, vous trouverez sa recette sur notre page web.
Je m'appelle Latifa Koussi à Winnipeg et tous les samedis dès 10h, j'écoute Le Monde chez nous sur ICI Radio-Canada Première.
Si j'ai besoin souvent de partir très loin, de couper le fil qui me retient, si j'ai besoin toujours de créer mes propres chemins, jamais, jamais je n'oublie d'où je viens, d'où je viens. Ne m'en veux pas, je suis comme ça, je n'ai jamais su me satisfaire d'un coin de terre pour inventer ma vie. Faut que j'aille voir ailleurs si j'y suis. Question, et le temps nous est compté. Je veux toujours un peu plus, un peu mieux, voir plus loin que ne portent mes yeux. Si j'ai besoin souvent de partir très loin, de couper le fil qui me retient, si j'ai besoin toujours de créer mes propres chemins, jamais, jamais je n'oublie tout. Je viens, d'où je viens. Tous ces désirs doux, souvenirs sous ma peau. De ma mère émerveillée, je n'oublie rien de ces matins à genoux dans la rosée. L'enfance est là qui souffle dans mon cou, une chanson qui parle de vous. Si j'ai besoin souvent de partir très loin, de couper le fil qui me retient, si j'ai besoin toujours de créer mes propres chemins, jamais, jamais je n'oublie d'où je viens, d'où je viens.
C'est joli, n'est-ce pas? C'est la voix d'Amélie Veil, cette auteure, compositrice, interprète québécoise. Elle est originaire de la Beauce, donc cette région du Québec. Et cette pièce, D'où je viens, c'est le titre de la pièce, se retrouve sur son quatrième et plus récent album intitulé Les moments parfaits. C'est un disque qu'elle a lancé dans le cadre des Francopholies de Montréal un peu plus tôt au mois de juin. Un disque qui est né entre Montréal et Paris, comme quoi les voyages, ça inspire. Et c'est un album qui a été réalisé par Antoine Graton. Sid Kassioui est né en Algérie. Ingénieur de formation, il émigre au Canada en 2010 et s'installe à Calgary avec son épouse et ses enfants. Ardent défenseur de la culture berbère, il est aujourd'hui notre guide des mots et porte-voix de trois expressions dans cette langue. Il est dans nos studios à Calgary. Bonjour, Monsieur Kassioui.
Bonjour, madame.
Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation au micro de l'émission. Alors, vous allez nous présenter des expressions aujourd'hui en langue tamazite. Il faut dire que c'est une langue berbère qui, sous différentes variantes, est quand même parlée par plus de 10 millions de personnes dans le monde.
Oui, elle est parlée par un certain nombre de Nord-Africains, mais moi, généralement, je ne me fie pas aux chiffres, au pourcentage des gens qui la parlent, parce qu'il n'y a jamais eu de statistiques qui peuvent attester de ce chiffre-là. Donc, je dis que les Nord-Africains sont historiquement berbères.
Eh bien, on va profiter de votre passage chez nous pour donner une pérennité, justement, à cette langue tamazique. Vous allez nous présenter d'abord une toute première expression dans cette langue et nous expliquer ce que ça signifie.
Donc, la première, on dit, on ne mesure « Winitson d'Itharakna yqaras shtouadhama ». La traduction en langue française, c'est « celui qui se couvre d'épaisses couvertures pense que l'hiver est doux ». La morale ou la signification, c'est-à-dire que celui qui n'est pas touché par le problème, par une situation, qui n'est pas concerné au fait, va dire que c'est pas difficile, c'est un problème facile à gérer, facile à résoudre. Mm. Mais il faut être dedans pour pouvoir tirer les conclusions qu'il faut.
C'est une expression qui est utilisée couramment?
Ah oui, surtout quand vous parlez avec l'ancienne génération.
Donc la génération de vos parents, par exemple.
Oui, voilà. Donc des expressions que j'ai apprises de mes parents, de nos aînés au village.
Oui. Et donc, vous avez entendu vos parents dire ça. On vous disait ça?
Oui.
Enfin, oui. Dans quelles circonstances on vous disait une expression comme celle-là?
Par exemple, quand je sais, j'estime justement l'importance d'un problème. Étant jeune, j'essaie de prendre les choses à la légère et puis mon père, il me corrige, il me dit « arrête de te comporter comme ça » et puis il me cite la citation.
Voilà. Et tout est dit.
Voilà, tout est dit, voilà.
On va y aller avec une autre expression. Allez-y.
La deuxième expression, c'est « afus ultzmer atazod sudnith » qui veut dire « la main que tu ne peux pas mordre, embrasse-la ». C'est-à-dire, quand vous voulez vous venger ou faire quelque chose, si vous pensez au préalable que vous n'allez pas atteindre cet objectif, n'essayez pas de le faire. Par exemple, quand vous êtes en guerre contre quelqu'un, si vous pensez que vous n'avez pas assez outillé pour mener la guerre, ne provoquez pas.
Il faut donc être stratège.
Voilà, donc c'est comme si, moi ça me fait rappeler une autre expression en langue française qui dit que si vous habitez une maison de verre, ne vous amusez pas à jeter les pierres sur les voisins.
Ah oui.
Voilà.
Oui. Et vous aurez peut-être à faire venir le vitrier.
Voilà, exactement.
On va terminer avec une dernière expression très imagée. Allez-y.
« Awin mishel welluy hadri manik titharousia ». La traduction littérale en langue française est « celui qui croit être à l'abri une fois au sommet devra penser que la chute ou bien le déclin lui sera certainement brutal et fatal ». C'est une expression qui parle un peu plus sur le machiavélisme humain. Ça parle des gens qui font feu de tout bois pour atteindre un objectif sans respecter les règles pour y parvenir. Donc, l'essentiel qu'il arrive au bout, et puis quand il est au sommet, il a une responsabilité. Quand il chute, la chute lui sera brutale et il ne va pas s'en sortir après, voilà.
Dans quelles circonstances cette expression-là serait-elle utilisée?
Celle-là, je me rappelle, c'est une expression qu'on utilise beaucoup plus dans le domaine de la politique. Pour les gens qui accèdent aux postes de responsabilité,
sans avoir fait leurs preuves sur le terrain. Montrer son engagement, sa loyauté vis-à-vis de la population qu'il a mandatée, etc.
Bah, c'est un bel exercice de mémoire et c'est un exercice de pérennité qu'on a fait ensemble. Je vous remercie beaucoup d'être passé nous voir. C'est de Kasiwi à Calgary. Merci et bonne continuité.
Merci beaucoup.
Comme vous, j'ai souvent tout perdu. Comme vous, j'ai souvent tout refait. Comme vous, la colère m'a fait dire bien des choses que je regrette. Comme vous, l'amour m'a tout donné. Comme vous, l'amour m'a tout pris. Pour un mot, pour un geste, il faut refaire sa vie. Mais l'histoire restera l'histoire et mon cœur est apaisé. Toute ma vie, je n'ai fait que chercher l'amour et la paix. Mais l'histoire restera l'histoire et mon cœur est apaisé. Toute ma vie, je n'ai fait que chercher l'amour et la paix. Comme vous, j'ai souvent eu très peur. Comme vous, je me suis raisonné. Comme vous, l'espérance sans un mot m'a quitté et j'ai continué. Comme vous, j'ai souvent pardonné. Comme vous, je me suis relevé. On ne vit que d'espoir et d'envie. Mais l'histoire restera l'histoire et mon cœur est apaisé. Toute ma vie, je n'ai fait que chercher l'amour et la paix. Mais l'histoire restera l'histoire et mon cœur est apaisé. Toute ma vie, je n'ai fait que chercher l'amour et la paix. Apaisé. Toute ma vie, je n'ai fait que chercher l'amour et la paix. Mais l'histoire restera l'histoire et mon cœur est apaisé. Toute ma vie, je n'ai fait que chercher l'amour et la paix.
Ça faisait déjà 10 ans qu'Enrico Macias ne nous avait offert un album studio. Eh bien, il a enfin brisé le cycle en février dernier avec cet album qui a pour titre Les Clés. Le chanteur français d'origine algérienne s'est toujours prononcé contre l'intolérance, le racisme et l'injustice. Et à 78 ans, après 55 ans de carrière tout de même, il remercie le ciel de toujours avoir une place dans le paysage de la chanson française. Ce qu'on vient d'entendre a pour titre « Comme vous ». Eh bien, c'est le moment d'élargir notre palette d'expressions qui sont issues de la francophonie internationale. Et cette semaine, 3 invités essaient de deviner ce que l'expression « être chocolat » peut bien signifier.
Bien, de toute évidence, pour moi, ça doit vouloir dire quelqu'un qui sent bon, mais qui pourrait fondre rapidement au soleil.
Selon moi, je pense que être chocolat, c'est être un individu gourmand. Donc, un petit chocolat sucré et délicieux. Peut-être que si on en mange trop, on le devient aussi.
Je sais pas. Peut-être être gentil, comme j'essaie de penser à sweet, comme peut-être être gentil ou être aimable, quelque chose comme ça, mais j'ai vraiment aucune idée.
Être chocolat. Être chocolat, ça me dit pas grand-chose, mais par contre, l'expression « c'est chocolat », ah ben là, ça veut dire que c'est parfait, c'est bon. Parce que pour nous, quand j'étais jeune, ces chocolats, ça voulait dire qu'on avait atteint notre objectif. Le chocolat, qu'est-ce qu'il y avait de mieux sur Terre que le chocolat? Absolument rien.
Je sens qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont être d'accord avec cette dernière affirmation. Ben, c'est une expression qu'on entend de nos amis belges. Je vous avouerai que lorsque j'ai lu cette expression-là, être chocolat, j'ai d'abord pensé que ça faisait allusion à peut-être avoir pris un petit verre de trop. Puis je me suis demandé si ça ne faisait pas plutôt référence à un bon coup. Vous savez, du genre « l'affaire est dans le sac ». Eh bien non, nous faisons tous fausse route. Quand un Belge vous dit « je suis chocolat », c'est qu'il s'est fait rouler, qu'il s'est fait avoir et qu'il a été berné. On va terminer notre parcours avec une grande question du quotidien, faire ou ne pas faire son lit tous les matins. Alors, un petit sondage informel que le monde chez nous aime bien mener et qui appelle à la franchise de nos auditeurs. Voici justement ce que deux auditeurs ont à dire sur le sujet.
Je m'appelle Rima Sen, je vis à Vancouver et je suis née en Belgique, mais je suis originaire du Maroc. Entre faire son lit et pas faire mon lit le matin, je fais pas mon lit. Et c'est pas une question de paresse parce que ça prend 5 secondes, c'est juste que j'ai jamais compris à quoi ça servait. Je sais que c'est propre et tout, mais pour moi, c'est pas nécessaire. Il est toujours défait. Mon lit sera toujours défait.
Bonjour, je m'appelle Joël North, je vis à Vancouver et je suis d'origine canadienne. J'ai la question, est-ce que tu fais ton lit tous les matins ou occasionnellement? Et si je suis honnête, je fais mon lit presque jamais. Comme j'habite dans un appartement très petit et je suis presque pas là, je ne vois pas le point.
Il est vrai qu'en laissant le lit défait, c'est pas mal plus tentant de s'y glisser à nouveau pour une petite sieste de mi-journée. Et puisqu'on parlait justement de l'heure de la sieste en Espagne un peu plus tôt dans l'émission, eh bien, j'aimerais bien poser la question à nos auditeurs espagnols. Écrivez-nous pour nous donner votre avis. Rendez-vous donc sur la page web de l'émission à ici.radio-canada.ca/lemondechez-nous en un seul mot. La page est agrémentée de photos, de courtes capsules vidéo de nos invités. Allez jeter un coup d'œil, c'est un joli complément à l'émission. Alors, c'est déjà l'heure de tirer ma révérence. Je remercie toute l'équipe, réalisatrice associée d'abord, Angelina Teilman, nos collaboratrices dans l'Ouest, Joanne Lucier-Demers à Winnipeg, Pascal Bouchard-Dubé à Saskatoon, Marie-Ève Dussablon à Edmonton, Pierre Beaudoin à la réalisation des capsules vidéo, Mathias Wolfson à la technique. Le Monde chez nous est une idée originale de Saïda Ouchaou. Elle est également la collaboratrice en Colombie-Britannique. Au micro, Céline Gagnon, j'ai le plaisir de réaliser cette émission. Je vous remercie d'avoir été au rendez-vous. Portez-vous bien et à bientôt.